Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Déclic. Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode, nous recevons Asakura. Asakura, ou plutôt Johan, est un jeune artiste qui, alors qu'il s'est mis à la musique qu'en 2018, a connu une belle ascension en seulement quelques mois. Avec son style unique et une approche très personnelle de la musique et du milieu, Asakura a un bel avenir devant lui. Mais avant tout ce succès, Johan s'est essayé aux planches, rêve qu'il a décidé de laisser de côté avant de partir dans une carrière musicale. On revient avec lui sur ses déclics, son parcours avant la musique, ses actus et ses projets pour l'avenir. Et donc aujourd'hui dans le déclic, on reçoit Asakura. Salut.
Hello,
Asakura.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, tranquille. Hein.
Alors comment faut que je t'appelle ? Aska, Asakura, Johan ?
Tu m'appelles comme tu veux, hein, moi.
Monsieur.
moi, tout le monde m'appelle Johan, hein, donc.
Ouais, bah, alors on va partir comme ça. Ouais. C'est vrai que ça va être un peu plus intimiste si tu t'appelles Johan que plutôt sur
c'est
ton
bizarre,
pseudo.
C'est bizarre. Je me présente, je dis oui, alors moi c'est Asakura. C'est bizarre un peu.
Du coup, Johan, on a une habitude dans le déclic, c'est de revenir sur l'avant-déclic de nos invités. Mm-hmm. Donc toi, tu as eu deux déclics, celui de se mettre à la musique, comme je te disais dans l'intro, et après, maintenant, c'est de te lancer en autoprod. Mm-hmm. On va d'abord parler de ton premier déclic, si tu veux bien, et on va revenir sur ton parcours avant la musique. Parce qu'en fait, toi, tu as toujours aimé la scène. Et, sauf que ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ton premier amour, c'était le stand-up et la comédie en général. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période ?
Ouais, bah, en fait, ça a commencé... C'est une passion qui arrivait très tôt dans ma vie. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire que tu vois, je suis encore jeune, tu vois, j'ai 23 ans, mais je te parle d'il y a plus de 10 ans déjà. Tu vois, j'avais 12, 13 ans. Et en fait, moi, j'ai toujours été passionné de scène, en fait. Il n'y a aucun moment dans ma vie où je me rappelle d'avoir voulu autre chose que de monter sur scène.
C'est ouf.
Et moi, c'était ça, en fait.
Tout petit.
Ouais, depuis tout petit. C'est ce que je voulais, être sur scène, donc forcément... J'ai commencé par faire du théâtre quand j'étais tout petit. J'en ai fait pendant 8-10 ans, je ne me souviens plus exactement. Ouais. Et après, j'ai voulu aller plus loin. Et ce qui était le plus simple pour moi pour monter sur scène, ben, c'était de faire du stand-up. Tu vois. Donc, je te parle quand même d'une époque où le stand-up, c'était pas du tout à la mode. Tu vois, là où on voit qu'aujourd'hui, c'est partout et tout, mais je te parle d'une époque, on parle de 2010, 2011, tu vois.
T'avais le Jamel Comedy Club et encore, ça passait pas à la télé, tu vois,
Si, il y avait déjà eu des premiers trucs, mais c'était pas aussi... Tu sais, à Paris, il y avait peut-être 2-3 scènes ouvertes, et en plus, moi, j'habitais pas à Paris. J'habitais dans le sud de la France, donc ça veut dire que c'était mes parents, ils m'amenaient pendant les vacances scolaires pour faire tout ce qui était des scènes ouvertes, tout ça.
Et du coup, tes parents, ils te soutenaient vachement dans ce projet-là, c'est trop bien.
De fou, mais c'était bizarre, tu vois, parce que t'as des scènes ouvertes où t'avais que des adultes et t'avais un petit gars de 12-13 ans qui montait sur scène pour essayer de faire rire, c'était marrant. Mais moi, c'était ça, ma première passion, c'était de... En fait, moi, ma passion, ça a toujours été la scène, mais je me suis dit, le truc le plus direct et facile à faire pour moi, ce serait de faire du stand-up si je voulais être sur scène. Donc, c'est pour ça que c'est dans ça que je me suis lancé au tout début. Quoi.
Et le théâtre, autrement, c'est genre, je sais pas, tu vois, genre jouer dans des pièces, etc., ça t'intéresse
Si, j'adorais aussi. Parce qu'après, j'ai poursuivi ça plus longtemps. J'ai suivi une formation au cours Florent aussi. Ça m'a permis d'apprendre et de lire des choses aussi que j'aurais pas lu de moi-même. Donc, c'est des choses que je fais plus aujourd'hui, mais qui m'ont grave, qui me servent encore aujourd'hui. Tu vois.
C'est sûr que Beckett, si on t'oblige pas à le lire quand t'es gamin, tu le lis pas.
T'as capté. Tu vois.
J'ai fait du théâtre aussi. Ouais. J'adore Beckett, hein, mais genre, enfin, à 13 ans, t'as pas envie de lire ça. Et puis tu comprends pas. En plus.
Ouais, c'est ça. c'est ça.
Mais toi, tes ambitions à l'époque, c'était vraiment genre, tu te voyais faire ça, tu voyais vraiment continuer, genre arriver à tes 18 ans, te lancer pleinement dedans et tout.
En fait, moi, j'ai toujours eu... Moi, c'est un peu particulier parce que moi, je me suis toujours vu comme comment dire un créateur, c'est-à-dire que moi dans ma vie, ouais, il faut que je crée des choses en fait,
ouais,
et que
je les diffuse. Quoi,
ouais. Ouais, après.
Non, mais ça fait un peu pompeux parfois, ouais, de dire tu vois, ça,
mais c'est de créer et diffuser des choses.
T'as besoin de t'exprimer en fait.
Voilà, ouais, c'est ça. Je vois. Et par n'importe quel prisme, c'est-à-dire que aujourd'hui je fais de la musique, j'adore ça, et j'aimerais aussi beaucoup faire du cinéma.
Ouais, ce que j'ai l'air de l'acting. Et
ouais,
tout,
voilà, c'est des. Donc moi j'ai envie d'avoir le plus de casquettes possible pour pouvoir m'exprimer dans plein de domaines possibles.
Je pense que c'est bien aussi de le faire tôt, tu vois, parce que en France on a, alors j'aime pas du tout ce genre de phrase, si c'est en mode en France on est coincé, tu sais, vers des lieux communs comme ça et tout, mais j'ai remarqué qu'en France on a un peu plus de mal avec les comédiens ou les chanteurs qui font un changement de carrière un peu tard, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui ont réussi, il y a genre Virginie Efira, il y a genre Patrick Bruel, etc. Sur mon vieux patoche, mais moi j'ai des rêves de vieux, hein, parce que je suis mais en vrai, non, tu vois, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal avec le fait de changer de cap, etc. Donc je pense que c'est pas mal si tu deviens polyvalent dès le départ.
J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ça. Les gens de ma génération, tu vois, on est de plus en plus touche à tout, tu sais, on fait.
C'est clair.
On fait de. Tu vois, dans ce que je fais aujourd'hui, je fais pas que de la musique, c'est-à-dire que je m'occupe aussi de mes clips, aussi, tu vois, de mes visuels. Donc. On est de plus en plus touche à tout, tu vois.
Comment justement, tu parlais du fait que tu étais un petit à côté de tous les adultes et tout qui faisaient du stand-up. Comment tu vivais le fait de commencer aussi jeune? Est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que ça t'a mis un peu un frein?
En fait, c'est marrant. Tu sais quoi? J'ai eu la réponse à cette question. C'est marrant que tu me poses ça. Bah, j'ai eu la réponse à cette question il y a. Mais vraiment, genre 2 semaines.
Ouais.
Parce que tu sais, maintenant, je travaille avec. On en parlera tout à l'heure, mais je me suis monté toute une équipe autour de moi, tu vois, de gens de mon âge et des gens qui ont la même déter que moi. Et en fait, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Je me dis, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens qui sont dans mon équipe, en fait, ont rêvé tous, en étant plus jeunes, d'être des prodiges, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? De se dire. On voulait qu'on dise de nous, ils sont super jeunes et pourtant ils baissent tout, tu vois.
Ouais,
et en fait, je m'étais jamais fait cette réflexion de moi-même. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'était ça, tu vois, c'était cette volonté de outre le fait de le faire pour moi, bien sûr, tu vois, mais d'impressionner, tu vois, et de faire des choses que les autres de mon âge ne faisaient pas.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais, je vois très bien.
Et en fait, ils m'ont dit ça, et en fait, je me suis pris, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, je crois que c'est ça, tu vois. Donc, au contraire, tu vois, c'était faire des trucs jeunes, je ne l'ai jamais vu comme un handicap, je l'ai plus vu comme une force et comme même une fierté, tu vois.
Ouais, c'est clair, c'est surtout, faut être mature, hein, à 13 ans, pour monter sur scène et tout, ne pas avoir peur du regard des autres, en tout cas, savoir s'en défaire à l'instant T, tu vois, et tout, enfin, c'est... Et du coup, ça me fait rire. J'ai envie de te poser la question. Tu faisais quoi comme type de spectacle quand tu avais 13 ans? De quoi tu parlais? Parce que le stand-up, alors peut-être que je me trompe parce que je le connais que en tant que spectatrice, ce monde-là. Mais pour moi, c'est un peu genre, voilà, tu prends un peu ton quotidien, t'en parles, etc. Du coup, c'est ce que tu faisais un peu.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je parlais de ma vie de fin de collégien, début lycéen, je parlais de ma vie, je parlais des cours, je parlais des potes, je parlais des trucs de
ton
mon
âge
tu vois. Je parlais des trucs de mon âge. Tu vois, tu sais, il y a très peu de gens qui le savent et tout, mais à cet âge-là, c'est la même période où moi j'ai commencé à bosser un peu avec pendant 1 ou 2 ans avec Kev Adams aussi.
Ok.
Tu vois.
Attends, on a une exclue.
Ouais. Ouais, il y a des trucs un peu de dossiers qui traînent encore sur Internet que j'essaie de faire disparaître.
C'est chiant pour notre génération parce qu'Internet s'ouvre.
Ouais.
Les gens
là, quand ils vont me remonter là, ça va être compliqué.
Et
mais bon.
Malheureusement, plus tu vas être connu, plus ça va remonter, tu vois.
Ouais. Mais donc voilà, donc tu vois, de bosser avec un gars comme ça aussi, je m'en inspirais beaucoup aussi et tout, tu vois. Donc je parlais des choses de mon âge, tu vois.
Ouais, parce que lui-même faisait ça aussi. Bon, après, Kev Adams, il a fait son spectacle J'ai 16 ans pendant 5 ans, genre à 25 ans, il avait encore 16 ans sur scène, tu vois. Mais effectivement, oui, lui, c'était exactement ce genre d'humour, de quotidien d'un lycéen, d'un collégien.
Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était surtout pour bosser, surtout pour apprendre à écrire, et je l'ai toujours vu comme j'adorais ça vraiment, mais j'avais toujours vu ça comme une étape, tu vois.
Ouais, parce que t'écrivais toi-même aussi.
Ouais.
Attends, c'est trop bien.
Ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que finalement t'as arrêté en fait? Qu'est-ce qui...
Ouais, parce qu'en fait j'avais envie de faire autre chose, parce que ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça et tout, et il s'est passé des choses en interne où tu sais, des fois dans ce job, des fois tu vois, on te promet des choses et après ça se fait pas, et après il y a d'autres gens qui te promettent des trucs et après ça se fait pas et tout, et en gros j'étais trop dépendant de plein de gens, et au bout d'un moment j'ai eu un peu un dégoût de ça.
C'est peut-être pour ça aussi que maintenant, donc je fais une digression, mais peut-être que c'est aussi pour ça que maintenant t'as monté ton autoprod
Bien sûr. Et donc j'ai eu envie à un moment donné d'avoir une bouffée d'air, tu vois.
Ouais.
Parce que je te dis, ça faisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'années que j'essayais de faire ça, et de monter sur scène, et d'essayer de monter, que ce soit des courts-métrages, et chercher des rôles et des trucs comme ça, et en fait au bout d'un moment c'était plus douloureux que du plaisir, tu vois. Donc au bout d'un moment, au début fin 2017 début 2018, en fait j'ai eu besoin de, parce que tu vois on parle, mais là tu vois je suis parti de 2012 et je te parle jusqu'à fin 2018,
donc t'es
tu
resté
vois
longtemps,
donc
c'est
quand même plusieurs années, et j'arrivais à un truc où j'étais
presque 10 ans finalement.
J'avais envie de prendre une bouffée d'air, tu vois. J'avais besoin de faire autre chose, en fait, c'est à dire que j'avais besoin vraiment de toujours être dans la création, mais de faire autre chose, un truc que je connaissais pas, et un truc où j'aurais pu repartir un peu, remettre les compteurs à zéro.
Ouais,
tu vois.
Et de ce que tu vois ma prochaine question c'était comment t'as vécu un petit peu l'abandon de ça, mais finalement, de ce que tu m'en dis, c'était peut-être un peu un soulagement d'arrêter, non? Oui et non,
c'est ben, en fait, c'est pas vraiment un abandon, parce que moi, je l'avais vu je l'avais vu ça comme une étape, et qui aurait pu m'amener vers aussi ce que j'ai toujours voulu faire, que ce soit du cinéma et tout, et je sais que ce point-là, j'y suis pas encore arrivé, donc tu sais, c'est encore une étape que j'espère m'attend, tu vois.
C'est un peu en pause, quoi.
Ouais, en tout cas, c'est une évolution.
Ouais.
Tu vois, c'est une évolution. Et moi, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été un passionné de musique et de rap et tout, mais vraiment depuis très jeune, tu vois, mais en tant qu'auditeur, c'est-à-dire que jamais dans ma vie, tu m'aurais dit je vais faire de la musique, mais j'aurais rigolé, tu vois. Genre, non, jamais j'aurais pensé. Jusqu'à il y a 2 ans, là.
Ouais, c'est fou.
Jamais, alors que moi, je suis vraiment un bousier du rap, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, en primaire ou au collège, tu vois, quand les autres, ils écoutaient, tu sais, les bébés brunes et les trucs comme ça. Tu sais, nous, on écoutait vraiment, tu vois, du rap et tout. Donc, moi, j'ai toujours baigné là-dedans, mais en tant qu'auditeur, tu vois. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie, tu vois. Jamais.
Tu faisais pas partie des groupes de potes qui justement essayaient de rapper au fond
jamais,
de la cour.
Jamais. La première fois que je me suis enregistré dans un micro, c'était début 2018.
Putain, c'est fou.
C'est super récent.
Mais la musique, ouais, donc comme je t'ai demandé si c'était une carrière que t'envisageais, pas du tout. À aucun moment tu t'es dit que, même pour toi, même, genre, je sais pas, on peut faire un truc sans envisager, tu vois, d'en faire une carrière. Genre, tu peux faire de la musique pour, en hobby.
En fait, c'est comme ça que j'ai sorti mon premier morceau, en fait, et que j'ai fait et j'ai fait mes premiers morceaux, parce qu'en gros j'arrive fin 2017 début 2018, et j'ai plus de, tu sais, je me sépare de certaines personnes, je suis tout seul et tout, et j'ai pas de direction à prendre, et j'ai cette envie de me dire bon, mais tu sais quoi, viens, on va faire de la musique pour essayer de changer les idées, de trucs, et je m'enferme. Et je me dis, avec un objectif, je me dis, bon, ok, on est au mois de janvier, t'as jamais rappé de toute ta putain de vie, t'as jamais fait de la musique, mais je me mets une deadline. Tu vois, je me dis, au mois de juillet, faut que tu sortes un morceau.
C'est ouf.
Et j'ai jamais rappé. Mais je fais ça avant même de faire ma première tentative. Donc en gros, ça veut dire que de janvier à juillet, je m'enferme dans mon appartement tous les jours. Et j'apprends,
et
quoi, tu vois, mais des bases, tu vois.
Parce que le rap, c'est hyper dur, hein. On a l'impression que c'est extrêmement accessible, mais...
Mais en fait, c'est juste que là, je me souviens précisément... En fait, là, tu vois, je pourrais pas dire la première fois que j'ai écrit quelque chose, que ce soit un scénario, un truc. Ouais. C'est impossible parce que ça remonte à trop longtemps. Mais là, je me souviens précisément du moment, du jour, de la période où j'ai dit là, officiellement, start, je commence la musique. Tu vois. Et c'est marrant, tu vois, d'avoir.
Mais c'est arrivé comme ça.
Ouais, parce que c'était quand même un truc que je gambergeais depuis quelques mois, tu vois.
Ouais.
Mais c'est à la fin de certains projets, de. Pareil, j'ai arrêté les cours Florent parce que je ne m'y retrouvais plus là-dedans et tout, et d'être un peu. Pas désœuvré, mais.
Mais t'avais besoin d'un nouveau départ.
Voilà, c'est ça. Et donc, de janvier à juillet, juste je reste enfermé chez moi et juste, je taffe, tu vois, parce qu'il y a tout à apprendre, et le truc de rythme et même de trouver en vrai. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'en vrai, je trouve que j'ai trouvé mon univers et mon délire assez rapidement. Mais c'est de savoir, ok, alors.
Attends, c'est toi qui compose aussi ?
Non, je compose pas. Ouais, je compose pas.
C'est toujours un truc que je me dis quand j'écoute des sons. Ouais. Je me dis, mais comment tu fais pour sortir ça de ta tête ? C'est un truc que je.
Ben, en fait, il y a eu plusieurs étapes.
J'admire beaucoup, tu vois.
Ouais, ben, il y a eu plusieurs étapes dans ma. Depuis que j'ai commencé. En gros, il y a toute une période de 2018 à 2020, en fait. Où je fais tout, enfin sauf les prods, tu vois, mais ouais. je travaille en mode vraiment solo. Mmh. Et c'est que depuis le début de l'année 2020, où là je me suis entouré d'une vraie équipe, tu vois, autour de moi qui apporte beaucoup à ma musique, tu vois. C'est-à-dire que maintenant on réfléchit mes morceaux à 3 ou 4 personnes, tu vois. Donc ça m'aide énormément.
Puis ça donc, voilà. Professionnalise aussi un petit peu, je pense. Ouais, c'est...
Bien sûr, ouais.
Ah mais c'est fou, mais toi t'as vraiment t'as tout appris tout seul quoi, t'es autodidacte sur la musique et tout. Ouais.
Bah après j'ai encore, tu vois, c'est encore super récent, donc j'ai énormément de choses à apprendre, à taffer et tout, tu vois. Mais sur les premiers morceaux que j'ai sortis, ouais, je suis tout seul dans mon délire. Et j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube, et même quand je sors le premier morceau qui a bien marché ou quoi, y a personne qui est au courant en fait. Tu vois, autour de moi. Parce que j'avais peur du jugement un peu et tout.
De toute façon, je pense qu'on a toujours plus peur du jugement de ses proches que du jugement des gens qu'on connaît pas.
Ouais. Moi, en fait, j'avais peur de tout, en fait. Parce que, tu vois, dans le sens, c'était tellement pas...
Le mec a cliqué sur entrée, après, il a flippé.
Ouais, mais c'est vraiment ça. Parce qu'en gros, les gens, ils auraient pu se dire... ça sort de nulle part, en fait. Mm. Tu vois. Donc, j'avais tellement pas envie de m'expliquer sur le pourquoi du comment que, en fait, je l'ai sorti. Mais sans, tu vois, j'ai ouvert un nouveau... J'avais un compte Instagram, tu vois, qui est aujourd'hui devenu mon compte perso. Mm-hmm. Et j'ai ouvert un nouveau compte, tu vois, à Sakura, tu vois, à 0 abonné, tu vois. Et une nouvelle chaîne YouTube à 0 abonné aussi et tout. Et je l'ai sorti là-dessus, tu vois, sans communiquer sur... Ouais. Parce que je voulais pas, en fait, avoir à m'expliquer de ma démarche et de pourquoi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui me faisait du bien, tu vois. Je voulais vraiment pas... Et au final, je me rends compte qu'en fait, c'était... trop bien parce que je faisais un truc et je sortais une vidéo sans attente.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
sans
ouais.
attente.
C'est que si ça marche,
de réussite
ça marche, ouais.
ou sans attente de ouais de tu vois de que ça marche ou quoi, juste le fait de le faire.
Ouais.
Et je me souviens, ce sentiment, il était trop bien, quoi. Mm. Tu vois, et ça m'est arrivé une fois, et à partir du moment où tu vois, tu as déjà tes premiers résultats, bah tu n'auras plus jamais ce sentiment, tu vois. Mais c'était vraiment trop bien.
Oui, parce qu'effectivement, après, là, vu que tu t'es lancé dedans, t'as forcément des attentes quand tu sors.
Bien sûr.
C'est sûr.
Ben, bien sûr. Et tu vois, moi, c'est surtout, en fait, ce qui était très particulier pour moi. C'est-à-dire que le premier morceau que je fais et que je poste, il fait directement 1 million de vues.
On va en parler, ouais, justement. Tu vois.
Et donc, ça veut dire qu'en l'espace de 1 mois, je passe de novice total à 1 million de vues, à une signature en maison de disque, tu vois. Ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'était à la fois incroyable et à la fois tellement flippant.
Tu sais comment ça a pris ou pas ?
Ouais, parce qu'on a... Je pense que...
On s'est analysé un petit peu
bien
le truc
sûr.
Et tout.
Bien hein. sûr, en France, je pense que... On a été parmi les premières personnes à utiliser, tu vois, avant même que ça s'appelle TikTok, à utiliser toutes les applis comme Musical.ly et tout.
Tu me rappelles,
tu
ouais.
Tu vois. Et donc, ouais, bien sûr, c'est parti de là-bas. C'est parti de là-bas.
C'est Musical.ly ?
Ouais.
Ok, je savais pas.
Ouais.
Parce que je savais que bah, du coup, ton premier morceau que t'as sorti, c'est Caraba, c'est,
ouais,
ça,
c'est ça.
Et qui a percé à 2 millions de vues assez rapidement. D'ailleurs, tu sais en combien de temps ?
Il a fait, je sais que je le sors début août, et je sais qu'aux alentours du 15 septembre, Il fait 1 million de vues.
Putain, c'est ouf.
Ouais.
Et d'accord, ok, je savais pas que ça venait de Musical.ly en fait. Ah ouais, du coup, effectivement, bah ça. Bah, là, moi, tu vois, je suis complètement accro à TikTok, comme beaucoup de gens. Et effectivement, bah, y a des sons que j'écoute sur Apple Music.
Bien sûr, que t'as découvert là-bas.
Ouais, voilà, exactement, tu vois.
Bah oui.
Ouais, donc toi, t'en fais partie, quoi.
Bien sûr.
Ah, c'est ouf. Et du coup, en fait, tu peux dire comment tu l'as vécu, ça, justement, en fait, de voir le compteur qui monte, parce que, bah, comme tu dis, tu t'y attendais pas, en fait, ouais. Mais il y a quand même de la satisfaction aussi.
En fait, tu sais, avant, moi, j'avais une chaîne YouTube où je diffusais soit des passages de moi sur scène que je faisais, soit des courts-métrages que je faisais avec mes potes, soit des petites vidéos marrantes comme ça, et tu sais, je dépassais jamais 1000 ou 2000 vues, tu vois. Et je te dis, quand je sors Karaba et que la première fois, je passe la barre des 10 000 vues, mais je te dis que le moment où je fais 10 000 vues, il est plus intense que le moment où je fais 1 million.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, parce que
la première fois que tu vois un truc à un score à 5 chiffres, j'ai pété mon crâne. Donc j'étais tellement heureux juste de ça et de enfin faire un truc où il y ait du résultat. Parce que le pire quand tu fais des choses, c'est l'indifférence.
Ouais, d'essayer, ça marche pas. Ouais.
Moi, je m'en fous des critiques négatives ou quoi. Moi, c'est juste quand tu fais quelque chose et que t'as ni retour positif, ni retour négatif, juste, on s'en branle. En fait. Ça, c'est le pire. Tu
vois. Je suis d'accord avec toi.
Et puis, j'étais tellement, 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 tellement heureux de ça. Tu vois. Donc, je l'ai vécu, je me souviens, tu vois, j'ai passé en vrai le meilleur mois d'août, tu vois, de ma vie, tu vois, parce que, tu sais, les chiffres. C'est je dis souvent ça avec ma sœur, mais c'est à double tranchant, tu vois. C'est-à-dire que quand tu les as pas, ça fait mal, mais alors quand tu les as, c'est une espèce de je sais pas, ça doit déclencher un truc dans le cerveau, je sais pas. Et ouais, c'était juste kiffant. Là, c'était juste du kiff, en fait, tu vois. J'étais juste tout seul et c'était juste du kiff, et tout le monde autour de moi, on était ma famille et tout, on était content, tu vois.
Mais ouais, mais justement, comme tu le disais, t'es passé très rapidement 1 million de vues à signer dans une maison de 10, donc c'est Universal, c'est ça.
Ouais.
T'as réussi à garder les pieds sur terre ou t'as pété un petit plomb à un moment? Parce que ça arrive à beaucoup d'artistes. Hein,
Ouais, non, en vrai non, parce que c'était pas non plus le buzz du siècle, tu vois, ce que je veux dire. Mais c'est juste, moi, ça m'a juste.
Ouais, mais parfois, tu sais, il y en a, il leur suffit d'avoir 5K sur Instagram pour.
Ouais. Mais
ça m'a juste fait.
Ça a créé surtout en fait beaucoup d'angoisse chez moi, parce que je me rendais compte que j'avais l'impression que ça a été un peu un coup de chance.
Ouais, t'es un anxieux,
truc
de
truc un peu de l'imposteur.
Bien sûr.
De dire mais là vous me signez, mais vous savez que il y a mon premier morceau, alors je signe avec aucun autre morceau enregistré.
Donc
je dis, est-ce que juste vous rendez compte que là vous me signez?
Tu leur as dit ça?
Bah ouais, mais j'ai dit la vérité, tu vois. Parce que moi, je suis pas. Tu sais, je dis.
C'est bien, mais c'est un peu une balle dans le pied aussi.
Ouais, mais parce que je vais pas faire genre, ouais, bien sûr, bah là, je vais vous livrer un album dans 3 mois. Non, c'est faux.
Oui, t'es pas obligé de dire non.
Mais moi, je dis la vérité.
T'es pas obligé de dire, ah non, mais j'ai rien branlé depuis un mois.
Non, mais je dis, mais là, vous savez que j'ai rien dans les tuyaux.
Ouais.
Et qu'il va me falloir de, si vous voulez vraiment que je sorte que soit un album, un truc ou quoi,
il me faut de la thune.
Non, il va me falloir, ouais, déjà, mais il va me falloir surtout un vrai accompagnement et me mettre parce que on parle d'une époque où je connais ni compositeur, c'est-à-dire que la prod de Karaba, je la trouve sur YouTube.
Ouais, bah oui, tu t'as pris un truc libre de droit et tout,
ouais, tu vois. Donc j'ai ni compositeur, ni ingé son, ni mec, ça se trouve, pour m'aider à gratter. Ni
d'ailleurs,
mec,
t'as enregistré avec quoi chez toi, genre...
J'ai enregistré, j'ai écrit le morceau, je me souviens, dans le sous-sol de chez mes parents. Et après, j'avais trouvé un espèce de petit studio à côté de chez mes parents. Le studio s'appelait Studio Rock et Chanson.
Qui nous sponsorise d'ailleurs aujourd'hui.
Bien sûr, Big Up. Bah, il a fait le premier morceau, donc Big Up.
Ouais, Big Up à eux, hein.
Et j'avais fait mon premier morceau là-bas, quoi. Donc ouais, c'était comme ça, et c'était vraiment très très amateur, un peu dans tout ce qui était les mix et tout, mais je crache pas dessus, parce que tu vois, c'est le premier truc qui a fait
c'est le côté authentique aussi,
ouais, c'est ça. Et donc non, j'ai pas pété un plomb, mais ça m'a créé beaucoup d'angoisse, tu vois, beaucoup d'angoisse, parce que forcément, tu vois, quand tu sur un premier titre faire autant de vues, c'est autant positif que compliqué pour la suite parce que tu sais, si ton premier titre il fait 5000 vues et que t'en sors un deuxième et qu'il fait 10 000, t'es content. Maintenant, si ton premier titre il fait 1 million et que ton deuxième, ce qui a été mon cas, il fait 500 000 vues, et ben tu dis, ah, c'est moins bien. Alors que 500 000 vues, c'est incroyable.
Bah, c'est trop bien, ouais.
Tu vois
ce que je veux dire. Donc, en gros, ça crée... déceptif, quoi.
Voilà, tu vois, Et ça, j'ai beaucoup travaillé sur ça cette année, tu vois. Même c'est des trucs que j'ai tenus, des discours que j'ai tenus aux gens autour de moi. Je dis, mais les gars, rappelons-nous quand même d'où on vient.
Faut te détacher un peu des chiffres, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me dis, des fois, on parlait de trucs et on dit, ah, t'as sorti un morceau, il a fait 200 000 vues. Ah ouais, c'est un flop. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a combien de personnes qui aimeraient faire 200 000 vues
sur leur vidéo? Mais je dis, mais moi, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, mais je t'aurais mis une grande tarte, tu vois. Comment ça, tu vois? Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de tous réapprendre aussi un peu, tu vois.
Ouais, mais je pense que toi, ton côté anxieux, ça peut te permettre de garder un peu les pieds sur terre.
Ouais.
Parce que je pense que les gens qui pètent des plombs, c'est les gens qui pensent que tout est acquis, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'il y a un truc...
Non, mais surtout parce que j'étais conscient de là où j'étais. Je savais que j'étais archi, archi, archi novice et je me rendais compte de la chance que j'avais. Et donc, je voulais surtout pas la...
La gâcher, entre
guillemets. Ouais, tu
vois. Ouais. Et du coup, alors justement, on va faire un petit point, mais pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas, même si on va mettre évidemment tes sons dans la description du podcast, t'as un style de musique assez particulier, t'as une voix hyper unique, donc là on l'entend, t'as une voix ultra grave, mais dans tes sons, en fait, tu la pousses au max, tu sors un son hyper guttural, et tu l'as fait des carabas en plus, il me semble. Pas tout à fait, peut-être pas poussé.
Non, je l'ai fait
surtout
à partir
du... Ouais.
Voilà, exactement, c'est sur le premier son où je l'ai vraiment poussé comme ça. En gros, c'est juste le premier morceau. Carabas, en fait, j'ai pris un flow très murmuré.
Ouais, c'est ça, voilà.
Tu vois, mais qui dans ma tête était juste un flow approprié à ce morceau-là. Mmh. Je me dis, bon, bah, je ferai un autre morceau.
Ouais,
et
parce que t'adaptes pas mal quand même en fonction de tes sons, ta voix. Ouais,
ouais, tu vois. Et en fait, je pensais pas, mais les gens, ils m'en ont tellement parlé. Mais genre, quand je te dis que tout, un commentaire sur deux, c'était sur ça.
Ouais.
Sur ma voix, tu vois. On disait, il a une voix trop reposante alors que c'est dansant et tout. Tu vois, je dis, bah, ok, c'est bizarre. Donc forcément, quand on dit un truc, ça t'aiguille aussi sur une direction à prendre. Et je sors le morceau, 2 mois plus tard, je sors le morceau Técal. Et c'est là où, pour le coup, je descends vraiment très grave dans ma voix. Tu vois et là, le morceau... pète même
moi, c'est
un
mon
peu
préféré
plus que...
perso
ouais ben moi c'est aussi un de mes préférés, tu vois. Il pète plus que, enfin, au final là c'est le morceau qui a plus de vues sur ma chaîne YouTube, tu vois. Et les gens ils se prennent ce côté vraiment très voix grave, très bizarre et tout, et j'aime bien parce que c'est clivant, tu vois, tu reconnais direct, tu vois. Donc ça, c'était important pour moi. Et donc depuis là, bah, du coup, j'ai travaillé, c'était ma on m'identifiait par rapport à ça. Donc j'ai bossé sur ça, ouais.
Mais d'ailleurs, toi, c'est vrai que t'as un style non seulement unique aussi dans ta façon d'approcher aussi la musique. Je suis pas une spécialiste non plus. Je suis pas Noémie Lambert, big up. en fait, ouais, non, moi je suis pas une spécialiste, mais en fait, je vois que t'as une approche un peu unique où effectivement, comme tu le dis, en fonction du son, t'adaptes ta voix aussi, puisque t'as aussi sorti ta ASMR en fait, où tu fais un son en ASMR.
Ouais.
Et t'as aussi une approche de l'industrie, on en parlera après avec ta prod, mais un peu différente, parce que toi, tu sors avant tout tes sons sur YouTube. Mmh. Là où les artistes, généralement, ils le sortent, bah, Spotify, Deezer, Apple...
Ils sont aussi sur Spotify, mais
tu pousses moins, quoi.
Ouais, j'ai jamais sorti un morceau que sur les plateformes.
Ouais.
Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé.
T'as toujours un clip aussi avec
ça. Ouais, toujours.
Ouais.
Toujours. Ouais, c'est important pour moi, parce que l'image, c'est important. Mmh. Tu vois. Et c'est important qu'on sache, tu vois, c'est quoi ta gueule, tu vois.
Ouais.
C'est trop important. Et surtout, moi, j'ai jamais sorti, tu vois, j'ai sorti pour l'instant, j'ai sorti que des singles et tout, parce que moi, après, peut-être, moi, c'est ma vision des choses, tout le monde n'est pas d'accord avec ça et tout, mais moi, j'estime que, tu vois, sortir un projet, que ce soit EP, mixtape, album, ce que tu veux, quand il n'y a pas vraiment d'attente autour de toi, pour moi, ça sert à rien.
Ouais.
Tu vois, c'est juste jeter des morceaux, tu vois, à la poubelle. Je préfère donner à mes morceaux la même chance sur ma chaîne YouTube avec, à chaque fois qu'ils soient disponibles sur les plateformes, mais aussi avec un clip. Après, c'est les gens qui décident quel morceau ils veulent qu'on pousse. Mais sortir un EP ou un projet alors qu'il n'y a pas d'attente autour de toi, pour moi, je considère que ça sert à R, tu vois.
Mais d'ailleurs, attends, je veux juste revenir sur ta voix par rapport genre, à tes cales, etc. Cette façon de chanter ultra, ultra grave, ça t'est venu naturellement? Genre, c'est le son, tu t'es dit, ouais, avec ce son-là, ça va marcher, en fait, c'est...
Bah, en fait, j'avais le flow murmuré de Caraba, que j'avais en tête, et que je voulais appliquer aussi... sur le son Tekal, et quand j'ai la prod, je vois que la prod elle est beaucoup plus pas dure, mais beaucoup plus énergique et beaucoup plus électro. Et donc, en fait, si j'arrivais avec un flow trop murmuré, j'allais me faire graille en fait par tu vois, par la prod. Donc, c'est pour ça, en fait, mais c'est assez instinctif en fait. Ouais. Tu vois, je me dis, là, j'aimerais arriver avec une grosse voix un peu reconnaissable et tout. Et donc, sans faire exprès, vraiment, je descends très bas, tu vois, dans
les graves, ouais.
Ouais, des graves, ça se passe au niveau de ma gorge, tu vois. Et voilà.
Ouais, c'est un truc que tu fais naturellement, quoi. Ouais. Et c'est quoi tes inspirations, du coup, dans la musique, toi? Quels artistes t'inspirent
En fait, quand j'ai commencé...
Par Gérard Darmon.
Quand j'ai commencé, j'en avais pas vraiment, tu vois.
Ouais.
J'en avais pas vraiment, je...
Il y avait des trucs que t'aimais bien, mais pas forcément inspiré, quoi.
Ouais, voilà, tu vois. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de rap, beaucoup de trucs et tout, mais je me voyais pas rapper, tu vois, faire du rap dur ou, tu vois. Donc, en fait, c'est venu assez naturellement d'essayer de poser sur des prods enjaillantes un peu. Et en fait, et je commence à bosser comme ça. Et avec les premiers compositeurs avec qui je parle, ils me disent: ah, mais on dirait trop les délires un peu de la scène hollandaise et tout. Et j'ai une personne qui me dit ça et je fais pas trop gaffe. Un deuxième compositeur qui me dit ça, je fais pas trop gaffe. Un troisième compositeur qui me dit ça, je vais aller checker quand même ce qu'il me raconte quand même.
Ouais.
Et en fait, ouais, tu vois, là je découvre toute la scène rap un peu de hollandaise, tu vois, que ce soit. Young Felix, Dope Boy, Poké, tous ces mecs-là. Et en fait, je me prends une G, je me dis: ah ouais, mais ça, c'est incroyable, ce niveau de... En fait, les gens là-bas, ils sont fous. Ils sont fous, genre... Tu réécoutes et tout, mais...
Je connais pas du tout, j'avoue.
Ils s'en foutent de tout, en fait. Ils sont juste dans l'ambiance. Ouais. Eux, leur truc, c'est d'être le plus efficace possible, tu vois. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Donc,
peut-être
c'est ce que
feat.
Moi, j'essaye un peu de... Ouais, j'aimerais trop.
T'imagines, ce serait pas mal, un feat.
J'aimerais trop. Mais j'ai déjà fait, on s'est déjà vu en studio avec Young Felix. Et j'aimerais trop refaire vraiment quelque chose, ouais. Ce serait incroyable.
Et en fait, tu me disais, donc justement, c'est ton deuxième déclic auquel on va arriver, en fait. C'est que, en fait, au début, quand j'ai préparé cette interview, tu me disais que tu avais eu deux déclics. Donc, premièrement, la musique en elle-même. Et deuxièmement, de te lancer en autoprod. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Ouais, bah parce qu'en gros, tu vois, donc je signe mon premier contrat en novembre 2018 dans un label chez Universal, et je quitte le label au début de l'année 2020.
Ok.
Parce qu'on s'entendait plus sur... Ils avaient des attentes qui n'étaient pas les miennes, tu vois.
C'est ce qu'on appelle une mésentente artistique dans le milieu, ouais.
Mais en fait, c'est même pas
artistique. Ouais,
parce qu'en gros,
ses ambitions,
franchement, honnêtement, je pourrais dire ce que je veux, mais j'ai bossé avec il y a des gens dans ce label là qui pour le coup se sont vraiment battus et donnés pour moi. Je te parle plus des gens au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens, notamment les DA avec qui j'ai bossé, même si on n'est pas arrivé là où on aurait voulu arriver, ils ont quand même bossé pour que... Et ils sont quand même donnés pour que les choses
se fassent.
C'est plus pour les gens qui sont au-dessus d'eux.
Ok,
tu vois,
ouais.
À qui j'ai des petits reproches à faire. Tu vois.
D'ailleurs, ils sont là. Hein,
ouais, d'ailleurs. Mais voilà, et en fait, je me dis... Je sais que le passage en maison de disque, à un moment donné, il est obligatoire pour... passer l'étape du dessus.
Ouais.
Maintenant, je me dis, je peux pas, la prochaine fois que je vais signer, je ne peux pas être aussi dépendant des gens. C'est-à-dire que c'est un peu technique ce que je raconte, mais...
Non, mais c'est intéressant.
Dans la musique, il y a plusieurs types de contrats. Et on va dire le contrat basique, c'est le contrat d'artiste, en fait.
Ouais.
Tu vois, où en gros, c'est tes producteurs, ils payent, en fait, ils payent tout.
D'accord, ouais.
Mais ils te produisent tout, ils payent tout, mais en échange, ils récupèrent 92% de ce que tu génères.
Putain, je savais pas.
Ouais.
92%.
Ouais.
Et je me plains, et je me plains quand l'URSSAF me prend 20%.
Ouais, tu vois. Donc, mais c'est tes producteurs, ils te payent tout.
Oui,
tes,
par
tes
contre,
clips,
après, voilà, c'est ça.
Tout, tes, tout ton album, toute ta promo, tout.
Voilà, et puis c'est...
Tu sors rien de ta poche.
Voilà, c'est
mais...
ça. Si t'as besoin de, si t'as besoin de quelqu'un sur voilà, une prod,
tu
etc.,
payes,
ouais, tu vois.
Tu payes rien, mais ils te récupèrent 90% de
ça
ce
pique.
Que ta musique génère. Donc, ça veut dire que toi, tu, toi en tant qu'artiste, tu récupères donc, logiquement 10%. Donc, 10% quand t'es Kenji Girac ou Damso, ça va parce
c'est
que
sympa.
Ça reste quand même un truc. Mais quand t'es un artiste,
couille en or.
Ouais, quand t'es un artiste en développement ou quoi,
bah ça fait peu, ouais.
C'est rien.
Ça devrait être évolutif en fait en fonction, je pense.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a plusieurs types de contrats et en gros, donc du coup pour revenir à ce que je disais, c'est que je me dis mais en fait, donc t'as ce contrat et en plus t'es pas décisionnaire.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est toi qui choisis les morceaux que tu fais et tout. Tu vois, c'est, franchement, honnêtement, ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Mais
t'as de la liberté.
Du producteur qui dit et que tu vas faire. Qui arrive, qui dit que tu vas faire une chanson comme ça et tout, ça n'existe pas, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais t'es pas décisionnaire sur tes choix de sortie. Enfin, tes dates de sortie.
Ouais,
tout,
d'accord.
Tous ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si toi, tu veux sortir un morceau au mois de juillet et qu'on te dit, bah non, tu ne vas pas sortir au mois de juillet parce qu'on est en vacances, et bah, tu ne vas pas sortir ton morceau, tu vois. Et moi, en fait, c'était des choses que je ne voulais plus. Je voulais être. Au lieu d'être produit par une maison de disque, je voulais être plus allié à une maison de disque. C'est pour ça que j'ai ouvert ma structure, en fait.
Ok.
Tu vois, j'ai ouvert ma structure et je me suis dit, voilà, là, j'ai ma structure, je vais rester producteur de ce que je fais et je vais m'allier avec un label pour qu'on travaille ensemble et pour utiliser leur force de frappe.
Ah, c'est ça, ouais.
Tu vois.
Ah, bah, c'est donc, la bonne solution,
effectivement. Ouais, bah, en tout cas, c'est pour ça que... j'ai ouvert ma structure et que j'ai là toute l'année 2020 j'ai bossé en indé en indé pour apprendre aussi ok donc là c'est comme ça qu'on fait la musique qu'on la fabrique qu'on la mixe qu'on la masterise qu'on la distribue gérer des budgets de clips gérer des équipes en fait
ah j'avoue ça prend un tout nouveau métier quoi
de fou mais j'ai adoré tu vois et qui me prépare pour cette année 2021 où là c'est quasiment sûr que là je vais re-signer un deal tu vois en maison de disque tu vois
trop bien
mais beaucoup plus préparé
et puis tu vois ça te professionnalise aussi parce que comme ça et puis en plus je pense que dans ces cas-là alors je pense que ce sera pas le cas pour toi mais ça permet aussi d'un peu moins de faire couiller peut-être parce que tu connais l'envers du décor tu vois
bah, en fait,
tu,
ça, en fait,
tu sais comment
que...
combien ça coûte comment
voilà.
ça marche etc c'est-à-dire tu vois
en gros si tu me dis que on a que genre 1000 euros pour faire une vidéo, moi je sais que pour 500 euros, j'ai pu en faire 5 vidéos.
Ouais.
Donc en fait, tu peux pas me faire genre.
Ouais, c'est ça.
Quand on veut, on peut vraiment.
Ouais, c'est
ça.
C'est
dur, c'est compliqué, mais quand on veut.
Tu
on
trouves
peut...
des solutions,
ouais,
mais.
Tu ça, on peut plus me la faire, tu vois. Me dire, ouais, mais là on a que 1000 euros pour faire une. On trouve.
Ouais,
le
c'est
plus
ça.
Important, c'est les idées.
Ou alors c'est que la personne s'en prend plein pour
ouais,
elle.
Ouais, tu vois. Donc je dis ça. Tu pourras plus me faire, tu pourras plus me la faire.
Mais du coup, comment t'as fait pour t'entourer en fait, comment t'as choisi les personnes qui t'entourent? Parce que tu disais tout à l'heure que t'avais une grosse équipe autour de toi. C'est quoi? C'est des potes, des gens que t'as rencontrés dans le...
Ça s'est fait au... En fait, j'ai ouvert d'abord ma société avec ma mère.
Ok.
Donc en fait, là, ma mère, c'est ma productrice.
Trop bien.
Donc ça a commencé comme ça.
C'est trop bien.
Bosser
en famille.
Bah j'ai à ça il y a la première personne que j'ai rencontrée dans la musique qui est Noémie que tu connais.
Alors pour nos auditeurs, Noémie c'est celle qui a participé au déclic pour parler de son parcours avec Ginette la caravane. Écoutez, vous savez le podcast est un petit monde.
Donc voilà qui travaillait chez Universal, c'est la première personne que j'ai connectée. Et qui m'a accompagné pendant un bon moment, donc elle qui s'est ajoutée à cette équipe là. Et ensuite j'avais mon cadreur depuis le début qui faisait tous mes clips au début qui s'appelait Léo, qui lui m'a connecté avec des gens que lui avait de
D'accord.
son côté, tu vois, donc que ce soit un autre réal, que ce soit une directrice de prod. Ouais. Donc en fait, franchement, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Et après, j'ai rencontré toute mon équipe artistique, qui est mon compositeur Berry, Wills, avec qui j'écris, je top-line mes sons et tout. Daniel, qui compose des trucs avec qui j'écris.
Qui est un rappeur aussi.
Incroyable.
Ouais, il est ouf, j'aime beaucoup.
Après, il y a Red Ice, tu vois, qui m'enregistre. Il y a Waz aussi qui m'enregistre. Enfin, franchement, ça s'est fait au fur et à mesure en fait, du chemin parcouru, tu vois. Et au final, tu vois, pour... en ce moment, je travaille avec... Ouais, en vrai, si tu cumules tous les gens qui travaillent là pour que je puisse sortir mes morceaux, il y a peut-être en vrai une douzaine ou une quinzaine de personnes.
Quand même,
vois,
ouais.
Au final, qui collaborent autour de moi, tu vois.
C'est ouf.
Ouais.
Et d'ailleurs, en fait, en ce moment, tu es sur un gros projet en autoprod. En fait, tu sors un son et un clip, comme tu le disais, toi, tu dissocies pas les deux, par semaine sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Genre, comment ça t'est venu? Comment ça se passe en ce moment? Ouais, parce que là, tu es en plein dedans.
Ouais, je suis grave dedans. Ben, en gros, c'est venu à l'idée de. En fait, c'est juste de faire. C'était l'idée de se dépasser un peu. Et je me suis dit, je voulais. Là, sur l'année 2021, de sortir. 14 morceaux.
Ouais.
Je me suis mis ce défi-là et en fait, je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Donc, c'est dans l'idée, en fait, juste, j'ai des titres que j'ai depuis longtemps. Il y a des trucs que je voulais tester. Donc, je me dis, bon, bah, c'est le bon moment, là, de tester sur ma chaîne YouTube qu'est-ce qui réagit bien, qu'est-ce qui réagit moins. Donc, là, j'ai déjà sorti, le moment où on enregistre, là, j'ai déjà sorti 6 morceaux.
Ouais. Il était presque à la moitié.
Ouais, je suis presque à la moitié. Il y a des trucs que je vais rebosser un petit peu et à chaque fois j'ajuste.
Tu les as tous préparés en avance et là tu.
Bah, en fait, il y en avait quelques-uns que j'avais en avance, mais là je suis en train de perdre. je suis en train de perdre mon avance.
Faut de l'inspi. Avance,
mais ouais, en tout cas, je suis dessus et il y aura 14 morceaux là qui vont sortir. Sur cette année là.
Ok. Et à part ce projet là, c'est quoi tes projets pour 2021?
Moi, ce qui est le plus important pour l'instant, c'est de développer mon audience.
Ouais.
C'est vraiment le plus important. Il y aura pas ni de projet ni quoi que ce soit tant que j'aurai pas passé cette étape là. Donc là, je suis vraiment dans un travail de développement. Tu vois, de pouvoir encore faire des morceaux qui scorent bien, plus me montrer, plus m'identifier, plus identifier aux yeux des gens. Donc ça, c'est mon unique projet pour l'instant.
C'est déjà pas mal.
Ouais, je me concentre sur ça. Et avant même de réfléchir à que ce soit un album ou un
EP, de la scène, ouais.
Ouais, non. De toute façon, scène, c'est un peu die, là. Mais...
Ouais, là, c'est... Je sais pas, hein, y a des gens qui ont de l'espoir. Hein,
ouais.
Et bien le concert de PNL en septembre qui est toujours là. Hein.
J'y crois moyen.
Moi aussi, j'y crois pas trop, j'avoue. C'est triste. Et pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes artistes qui voudraient se lancer comme toi?
D'être endurant.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est ça.
Pas avoir peur, ouais.
Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et de faire. De faire les choses surtout. Même si on se rate, même si on se loupe, c'est pas grave. Parce que tous les échecs que t'as, ça t'amène à une réflexion différente qui t'amène à un autre projet. Qui, ça se trouve, ce projet-là aussi va rater, mais qui va t'amener à une gamberge différente, qui va t'amener au bon truc, tu vois.
Et puis si tu fais pas, ok, t'as pas d'échec, mais t'as pas de victoire non plus. Quoi.
Voilà. Je pense c'est ça. Je pense que pour... Ouais, je pense que c'est ça, il faut prendre des risques, tu vois, le résultat est bénéfique, et tu vois, en rapport au risque, tu vois.
Ouais.
Donc ouais, voilà.
Je te remercie beaucoup, Johan.
Avec plaisir.
Je vous invite tous à aller écouter les sons d'Asakura, on vous met tout en barre de description, et merci beaucoup, Johan, à bientôt.
Avec plaisir, à plus.
Salut.
À plus.
Merci d'avoir écouté le déclic d'Asakura. Retrouvez tout son univers musical sur sa chaîne YouTube, sa page Instagram et toutes les plateformes d'écoute. Découvrez-en encore un petit peu plus sur lui en écoutant son épisode de La Chanson, publié la semaine dernière. Pour toujours plus de 18h17 Productions, suivez-nous sur les réseaux sociaux, @18h17 Productions, et écoutez nos autres formats, La Chanson donc, L'Apéro et Le Jeu. La semaine prochaine, on se retrouve exceptionnellement pour un autre déclic. À la semaine prochaine, donc.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.